Bonjour à tous, vous êtes bien dans Carrefour Sciences et Santé sur VOA Afrique. Maëlie Segal en votre compagnie pour parler du climat et plus particulièrement du réchauffement climatique.
Cette année, c'est un peu spécial parce que 2015 vient de briser un nouveau record de la température du globe. En Afrique, on a noté la vague de sécheresse qui a touché une grande partie de l'Afrique australe, une partie de l'Afrique du Nord et l'Éthiopie. On a enregistré donc des urgences humanitaires dans pas mal de pays comme le Zimbabwe, l'Éthiopie.
C'était au Marbadour de l'Organisation météorologique mondiale, la suite de son explication dans quelques instants. L'Organisation météorologique mondiale est une agence de l'ONU basée à Genève. Chaque année, elle fait le point sur l'état du climat mondial. Intéressons-nous à son nouveau rapport qui constate des records de chaleur depuis le début de l'année 2016 avec Omar Badour, chargé de la coordination de la déclaration de l'OMM pour le climat.
L'Organisation météorologique mondiale, c'est une agence spécialisée des Nations Unies chargée de coordonner les activités mondiales de l'observation météorologique du climat et de l'eau, également chargée de mettre en place des directives pour les pays afin de mieux prévoir le temps et le climat ainsi que la gestion des ressources en eau. Il est constitué de 194 États membres et donc dispose des organes techniques comme des commissions techniques pour veiller à suivre le développement technologique en matière de l'eau, du climat et du temps. Et donc par ça, donc il est chargé aussi d'informer les États membres et les autres agences des Nations Unies sur l'état du climat à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle régionale. Comme chaque année, donc on sort la déclaration de l'OMM sur l'état du climat. Pendant l'année passée, une première déclaration est faite avant la fin de l'année passée et la brochure finale donc qui tient en compte des informations complètes est distribuée chaque année à l'occasion de la journée météorologique mondiale qui coïncide donc avec le 23 mars.
Quel est l'état du rapport sur le climat pour l'année 2015?
Cette année, c'est un peu spécial parce que 2015 vient de briser un nouveau record de la température du globe. Donc si on prend la moyenne des températures enregistrées dans tous les pays et on compare ça avec la moyenne à long terme, 2015 se décale par rapport à cette moyenne de 0,76 degrés centigrades. Et si on compare par rapport à la période pré-industrielle, on franchit déjà le seuil de 1 degré centigrade d'augmentation. En 2015, on a noté un phénomène très important qu'on appelle le phénomène El Niño, qui est un phénomène naturel, donc qui vient de une fois sur 5 ans. Et cette année, le phénomène El Niño, qui est caractérisé par le réchauffement de l'océan Pacifique équatorial, était d'une intensité jamais enregistrée depuis 1998, où l'on a enregistré donc un phénomène El Niño similaire. Cette année, donc, on a les deux phénomènes, le réchauffement global qui s'est accentué plus l'intensité extrême du phénomène El Niño. Et donc, parallèlement à ça, des extrêmes climatiques au quotidien ont été donc enregistrés dans plusieurs pays. Et là, on cite plus particulièrement les vagues de chaleur qui ont touché l'Asie, l'Europe, l'Afrique. En Asie, par exemple, l'Inde et le Pakistan ont enregistré une vague de chaleur qui a fait plus de 3000 morts à cause des effets sur la santé et problèmes pulmonaires. Et aussi, on a enregistré des inondations en Afrique, en Asie, qui a fait déplacer plusieurs milliers, voire même des millions de personnes. Et en Afrique, on a aussi noté la vague de sécheresse qui a touché une grande partie de l'Afrique australe et aussi une partie de l'Afrique du Nord et l'Éthiopie. On a enregistré donc des urgences humanitaires dans pas mal de pays comme le Zimbabwe, l'Éthiopie. Donc tous ces phénomènes ont été enregistrés avec une certaine intensité parfois rare. mais aussi avec des dégâts sur les êtres humains, sur les infrastructures et les services publics.
Donc on a beaucoup parlé de El Niño en Afrique australe, comme vous venez de le dire, et notamment sur les répercussions sur l'agriculture. Que faire pour lutter contre cette sécheresse ?
La sécheresse dans pas mal de pays d'Afrique est devenue un phénomène structurel qui apparaît plusieurs fois sur une décennie. Et donc les États membres de l'Afrique sont amenés à mettre en place des politiques à long terme pour la gestion de la sécheresse, des politiques volontaristes et anticipatives, afin de bien prévoir et prévenir les effets de la sécheresse. Au niveau des services météo, ils étaient capables, durant les deux dernières décennies, de mettre en place des systèmes d'alerte précoce contre l'éventualité de sécheresse. Ceci donc est une stratégie qui peut payer sur le court terme, donc sur l'année. Par contre, sur plusieurs années, il faut planifier, mieux gérer les ressources en eau et utiliser des pratiques agricoles peu consommatrices en eau et qui peuvent résister à la sécheresse. Parfois, la sécheresse n'est pas totale, c'est-à-dire ne touche pas toute la saison, une partie de la saison. Et là, donc, vient l'importance de voir des pratiques agricoles et des semences agricoles qui s'adaptent au mieux par rapport à ces conditions de sécheresse devenues de plus en plus structurelles.
Nous sommes en compagnie de Omar Badour, de l'Organisation météorologique mondiale. Parlons maintenant de la journée météorologique mondiale. Pourquoi créer une journée comme celle-ci et quel est le thème de cette journée pour cette année ?
Chaque année, depuis la création de l'Organisation météorologique mondiale en 1950, on célèbre le 23 mars la journée météorologique mondiale. Cette année, le thème, c'est un monde de plus en plus chaud, de plus en plus sec et de plus en plus humide. Nous sommes en train de vivre des scénarios de changement climatique. Par rapport aux conditions moyennes, certaines régions reçoivent des températures plus chaudes. Cette année, l'OMM, par ce message, voudrait attirer l'attention de tout le monde que les changements climatiques sont vécus. Aujourd'hui, ce n'est plus des scénarios de projection à l'avenir. Ça interpelle tout le monde, en particulier depuis les accords sur les changements climatiques, heureusement, qui ont été aboutis au mois de décembre à Paris. Il est temps maintenant que ces accords soient mis en place afin qu'on n'arrive pas à un seuil de non-retour par rapport aux températures du globe.
Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour cette journée ?
Il y a la célébration de la journée d'abord au niveau de l'organisation, ici à Genève, avec une demi-journée de présentation et des invités qui sont venus des missions diplomatiques, des autres agents des Nations Unies pour donc mettre l'accent sur ces trois thèmes que je viens de citer tout à l'heure. Mais aussi au niveau des États membres, dans chaque pays, il y a un service météorologique donc, qui représente, si vous voulez, l'antenne de l'organisation météorologique au niveau des pays pour mettre en place les programmes météorologiques. Ces pays aussi, chacun célèbre selon cette thématique la journée mondiale, soit avec des conférences de presse, soit avec des journées portes ouvertes, soit avec la distribution de plaquettes, de brochures pour informer mieux des activités des services météorologiques et en particulier cette année informer le public sur les changements climatiques et les extrêmes.
Donc c'est de la sensibilisation, c'est ça ?
Exactement, c'est de la sensibilisation et ceux qui ne connaissent pas la météorologie ou l'Organisation météorologique mondiale, donc c'est l'occasion pour s'approcher au mieux de cette organisation.
C'était Omar Badour, chargé de la coordination de la déclaration de l'OMM pour le climat. Vous êtes sur VOA Afrique, dans votre magazine Carrefour Science et Santé. Le sujet de cette semaine, c'est le réchauffement climatique et la sécheresse en Afrique, conséquence notamment du phénomène El Niño. Explication avec Mamadou Wassila Tiao, qui travaille au Centre de prévision climatique de la National Oceanic and Atmospheric Administration à Washington.
El Niño, en fait, c'est des anomalies de température de surface océanique au niveau du Pacifique. Comme le Pacifique est très étendu, depuis les côtes sud-américaines jusqu'en Indonésie. Donc, c'est le plus vaste océan. Et donc, le phénomène El Niño, qui se manifeste par un réchauffement des températures de surface océanique, s'étend donc depuis le long de l'équateur, depuis les côtes sud-américaines, jusque un peu avant l'Indonésie. Alors, quand cela se produit, qu'il y a une manifestation atmosphérique donc qui est associée, alors il y a beaucoup de nuages et de pluie qui se passe donc dans cette région-là où il y a eu donc ce réchauffement de température de surface océanique, et donc cela perturbe la circulation générale de l'atmosphère. D'où donc on voit des effets au niveau de l'Indonésie, mais aussi en Afrique, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, et parfois en Afrique de l'Ouest aussi, on peut ressentir ce phénomène.
Ça se manifeste par quoi en Afrique?
C'est surtout soit par des excès de précipitation ou un déficit pluviométrique assez marqué. Donc, en général, ce que l'on observe, quand il y a un réchauffement de température de surface océanique au niveau du Pacifique tropical, on ressent un surplus de précipitations avec des inondations au niveau de la partie équatoriale de l'Afrique de l'Est, donc la région du Kenya, Somalie, l'Ouganda parfois. Et plutôt plus au sud, donc en Afrique australe, le Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud, Botswana, dans cette région, on a un déficit marqué de précipitation. Donc en Afrique de l'Ouest, le signal est moins clair. Parfois dans le Sahel, on observe une baisse de pluviométrie et une augmentation plutôt au niveau de la région sud, dans la région du Golfe de Guinée. Mais ce n'est pas très, très marqué parce que dans cette région-là, l'Atlantique, l'océan Atlantique joue aussi un rôle prépondérant.
Pourquoi est-ce qu'on parle de El Niño cette année et pourquoi on dit qu'il est plus puissant cette année?
Parce que les anomalies de température de surface océanique au niveau du Pacifique sont assez importantes. Je pense que le sommet, c'était au mois de novembre, vers la fin du mois de novembre, où on avait observé des anomalies de 3 degrés Celsius au-dessus de la normale. Donc ça, c'est énorme. C'est comparatif avec le phénomène en 1997-98, où on avait aussi atteint des valeurs assez proches. Par contre, ce qu'on a observé cette année, c'est que les effets n'ont pas été les mêmes. Par exemple, en Afrique de l'Est, en Afrique équatoriale, il y a eu effectivement une hausse des précipitations, mais on n'a pas eu les inondations qu'on a eues en 97-98, par exemple, où la saison s'est prolongée depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il y a eu des pluies tous les jours avec beaucoup d'inondations et beaucoup de dégâts. Donc, c'était assez catastrophique en 1997-1998. Donc, en 2015-2016, on a observé effectivement une hausse des précipitations. Il y a eu des inondations, mais pas au même degré que ce qu'on a observé en 1997-1998. Donc, cette année aussi, pour l'Afrique australe, il a fait très sec en Afrique australe les mois d'octobre, novembre, décembre, jusqu'à janvier. Mais ce qu'on a observé dernièrement, depuis la deuxième quinzaine du mois de février jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de pluie, donc en Afrique australe, qui font que effectivement ces pluies diluviennes ont commencé à un peu ajuster le déficit observé au début de la saison.
Est-ce que tout cela est dû au réchauffement climatique?
C'est un peu difficile à dire dans la mesure où le phénomène El Niño, en tant que tel, est un phénomène naturel. Donc, qu'on a observé depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc, évidemment, on ne connaissait pas l'importance scientifique. C'est seulement à partir des années 80, milieu des années 80, qu'on a commencé à comprendre ce phénomène-là. Mais, si vous voulez, les habitants de l'Afrique australe, surtout les Péruviens, savaient que ce phénomène existait depuis plusieurs siècles. Alors, c'est un phénomène naturel qui arrive tous les 3 à 5 ans. Les gros phénomènes tels que celui qu'on a observé donc en 2015-2016, 97-98, 82-83, en général, se produisent tous les 10 à 15 ans. Donc, c'est un phénomène naturel. Mais effectivement, on peut dire que le réchauffement climatique global aussi peut contribuer au renforcement du phénomène El Niño quand ça se produit. Par exemple, 2015-2016, donc il y a eu, en 2014, il faisait très chaud au niveau de l'océan global, je dirais, au point qu'on pensait même qu'un El Niño se produisait, mais en réalité, c'était un réchauffement global. Donc, le phénomène El Niño est venu s'ajuster donc à ce réchauffement global, ce qui a effectivement jouer un rôle à amplifier le phénomène.
C'était les explications de Mamadou Wassila Thiaw, météorologue à l'Oceanic and Atmospheric Administration à Washington. En Afrique du Sud, on assiste à la pire sécheresse depuis 112 ans. Des températures anormalement élevées et des pluies plus que faibles en 2015 ont été enregistrées par les services météorologiques. Ce phénomène concerne plusieurs pays de la région de l'Afrique australe et a de graves répercussions sur le secteur de l'agriculture. Pour en parler, Guillaume Fury, conseiller pour les affaires agricoles de l'ambassade de France en Afrique du Sud.
Les données qui ont été publiées font état d'une sécheresse exceptionnelle en Afrique du Sud, mais elle touche également l'ensemble de la région Afrique australe, c'est-à-dire des pays comme la Zambie, comme le Malawi, comme le Botswana, comme le Zimbabwe, du fait du phénomène El Niño qui est d'une intensité particulière cette année. Ça se traduit généralement en Afrique australe par une sécheresse marquée, un retard dans la saison des pluies et un caractère très aléatoire au niveau géographique. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va y avoir une baisse extrêmement forte de la production agricole. Plus emblématique est celle qui concerne le maïs, qui est la principale céréale cultivée en Afrique du Sud. Selon les dernières statistiques, la production serait inférieure de 50% à la moyenne, ce qui est vraiment extrêmement faible. Et cela est dû au fait que de nombreux agriculteurs, en fait, n'ont pas été en capacité de semer, tout simplement, puisque les précipitations étaient vraiment trop faibles. Et donc, de nombreux agriculteurs vont avoir des graves problèmes de trésorerie. C'est une vraie problématique pour l'avenir du secteur agricole sud-africain.
Et donc, quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre cette sécheresse?
Il y a 9 provinces en Afrique du Sud. Il y a 5 de ces provinces qui ont été déclarées par l'État en situation de sécheresse sinistrée, ce qui a permis de mettre en place des mesures exceptionnelles, notamment de restriction des usages de l'eau et également de réallouer certains crédits en direction des exploitations les plus fragiles. Ces crédits étaient largement insuffisants par rapport aux enjeux. Et dans ce contexte, et face à l'aggravation de la crise, on a eu la semaine dernière le département de l'agriculture et le ministère du budget qui ont annoncé une enveloppe exceptionnelle de 450 millions de rands, soit à peu près 25 millions d'euros, pour venir en aide au secteur agricole. Donc on a déjà changé de dimension. Ça va permettre notamment de venir en aide aux éleveurs sous la forme de distribution d'eau pour les animaux et de fourrage, puisque il n'y a eu quasiment aucune production fourragère en Afrique du Sud cette année. Les besoins totaux pour que le secteur agricole puisse se remettre de cette sécheresse sont vraiment d'une autre dimension, puisqu'il évalue entre 1,5 et 2 milliards de rands, soit à peu près une centaine de millions d'euros.
C'était Guillaume Fury, conseiller pour les affaires agricoles de l'ambassade de France en Afrique du Sud. L'Afrique australe n'est pas la seule région à souffrir de sécheresse. La région du Sahel est l'un des territoires les plus vulnérables. Explication avec Issa Martin Bikienga, coordinateur de la cellule technique Agir, Alliance globale pour la résilience du Sahel et Afrique de l'Ouest. Il appartient également au CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel.
Quand vous regardez le Sahel, géographiquement parlant, c'est la zone la plus vulnérable. C'est ça qui est la plus sensible au changement climatique. Parce que bon, il n'y a pas de végétation, il ne pleut pas assez. C'est une zone qui est très exposée, donc qui est très vulnérable au phénomène du changement climatique.
Quelles sont les conséquences de cette sécheresse au Sahel?
Les conditions que les Sahéliens vivent à l'heure actuelle sont le résultat du phénomène du changement climatique qui a commencé depuis de nombreuses années. Les activités économiques ont été entièrement entravées par le fait que, avec le changement climatique, il y a beaucoup d'activités économiques qui sont incompatibles, beaucoup de pays en retard en matière de développement durable. quand on parle du réchauffement climatique, il y a des conséquences, par exemple, sur l'agriculture. Il y a les sécheresses, il y a les inondations. Et cela n'est pas propice à l'agriculture. Et comme tout le monde est basé essentiellement sur l'agriculture, le changement climatique a des conséquences néfastes sur l'élevage. Il y a une source de richesse pour les pays sahéliens. Quand il n'y a pas de pâturage, un manque de ressources, les animaux ont du mal à s'abreuver. Les ressources en eau ont fortement diminué. Et si on prend le cas des plus hauts bassins versants que nous connaissons au niveau du Sahel et de la Grèce, le bassin de la Volta, le bassin d'Al, le bassin de la Gambie, le lac Tchad, j'en passe. Voilà, tous ces bassins-là ont vu leur découlement diminuer de façon importante, parfois de 30%. Alors, quand il y a des baisses de ce genre, ça dépend, c'est sur le développement économique des pays qui sont concernés par ces bassins versants.
Vous êtes toujours sur VOA Afrique dans Carrefour Sciences et Santé. Maëlys Segal au micro et nous parlons de climat, de réchauffement climatique et des conséquences dans le Sahel notamment. Nous sommes en compagnie d'Issa Martin Bikienga, qui appartient au CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel.
Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que le changement climatique résulte des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre sont liés à l'activité industrielle. Quand on parle des pays sahéliens, ce n'est pas des pays où l'activité industrielle est très développée. Mais comme le climat est quelque chose mondial, l'activité industrielle dans les grands pays développés, les activités industrielles ont contribué à perturber le climat mondial. Et les pays sahéliens, ce sont en réalité des pays victimes du phénomène du changement climatique. Les pays sahéliens, les conséquences de cette perturbation. Seulement, c'est quelque chose de mondial. Si un pays est fragile sur le plan climatique, ce pays davantage le contre-coup de cette perturbation. C'est le cas des pays sahéliens.
Comment faire du coup pour lutter contre le réchauffement climatique?
Le phénomène du changement climatique, c'est avant tout une question économique. Parce que si c'était une question simplement en général, on aurait une position rapide et efficace. Mais étant donné qu'il s'agit d'une question économique, il y a beaucoup d'enjeux. Réduire, par exemple, les émissions de gaz carbonique, ça veut dire quoi? Réduire l'activité industrielle, donc réduire l'activité économique. Quand on veut réduire les émissions de gaz carbonique, ça touche nécessairement aux activités industrielles, donc les économiques. Il y a beaucoup plus d'enjeux économiques que d'enjeux environnementaux.
Du 30 novembre au 11 décembre dernier, a eu lieu à Paris la COP21, une conférence sur le climat, dont le but est de limiter le réchauffement climatique. Le projet d'accord final a été adopté par l'ensemble des 195 parties qui participaient à la COP21. On parle d'un accord historique pour réduire les émissions. Mais qu'en est-il vraiment, Issa Martin Bikienga?
Je pense que tout d'abord, il faut saluer cet accord qui était inespéré. Mais pour ce qui me concerne, je me dis que les engagements sont respectés normalement. On devrait pouvoir limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme cela est indiqué dans l'accord. Bon, mais cela n'est pas suffisant. Une chose est de prendre un engagement, une autre chose est de le respecter. C'est là que réside notre crainte. Mais comme je dis, on a déjà un accord, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que les engagements qui ont été lors de la COP21 soient suivis. Ça, nous attendons de voir.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Issa Martin Bikienga. Vous appartenez au CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous êtes toujours sur VOA Afrique depuis Washington, dans le magazine Carrefour Sciences et Santé, présenté par Maëlys Segal. Nous parlons du climat, du réchauffement climatique et des conséquences de la sécheresse en Afrique. Écoutez plutôt ce reportage d'Abderrazak Idrissa sur la désertification autour du fleuve Niger à Niamey.
Le site de Yetore Alla, traduisez Dieu merci en langue peul, s'étend sur plus de 1000 hectares. Il est situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey. C'est un plateau où charpente le fleuve Niger. Dans le temps, il faisait le bonheur des populations environnantes du fait de l'abondance de sa faune et de sa flore.
Moi, je suis natif d'ici. Et actuellement, j'ai 55 ans. Lorsque j'avais entre 8 et 10 ans, je gardais les troupeaux ici. C'était vraiment une vraie forêt. Il y avait presque toute la faune, la petite faune, des lièvres jusqu'aux antilopes, les hyènes, les phacochères, je les vois, ils étaient là.
La pollution et les effets du réchauffement climatique sont passés par là et le site changea de visage pour devenir un désert qui s'étend à perte de vue.
Un reportage d'Abderrazzak Idrissa à Niamey au Niger. Ainsi s'achève cette édition de Carrefour Sciences et Santé consacrée au réchauffement climatique et à la sécheresse en Afrique. Vous êtes sur VOA Afrique et au micro Maïly Segel qui vous remercie de l'avoir suivi.
Bienvenue à bord.